Si dans ma chambre d'adolescent, mes héros pédalants étaient punaisés dans leur gloire, Merx, Ocaña et Thévenet, mes trois mousquetaires, bien sûr, étaient quatre. Leur faisait face un géant qui, à lui tout seul, par sa classe, par son physique, par l'essence même de sa vie, se situait à part, ailleurs, échappé du monde des humains, si humain pourtant. Fausto Coppi, je l'avais immortalisé en jaune dans une de ces montées infernales du Galibier où sa pédalée cruelle avait laissé tant de victimes dans son sillage. S'il n'avait remporté que deux Tours de France, il avait laissé sur les routes une semée d'étincelles que ni le temps, ni sa mort prématurée à 39 ans, ni les trois champions qui lui faisaient face sur les murs mansardés de ma chambre n'avaient pu éteindre. Je m'étais intéressé à Coppi plus que de raison pour un garçon de mon âge. En vérité, j'appris sans tarder que Fausto appartenait à la légende familiale des Fotorino. S'ils avaient vécu en Tunisie jusqu'à l'indépendance de 1957, ils avaient pris l'habitude de venir en France chaque été depuis 1949 à Ardiège, un petit village de Haute-Garonne. C'est ainsi que, venus en voisin sur les pentes du col d'Aubisque, un après-midi de juillet, ils virent surgir une carcasse squelettique. Visage christique n'était l'absence de barbe. Les joues creusées, l'œil noir et globuleux dans le vague et la transe de l'effort, le teint pâle d'un homme battu comme plâtre. Claire, ma grand-mère, fut si bouleversée par cette apparition qu'elle se mit aussitôt à pleurer. On ne pouvait pas plus l'arrêter que Coppi dans sa chevauchée victorieuse. Plus de 20 ans après, on en parlait encore à table. Ma grand-mère, ses yeux bleu pâle écarquillés, évoquait ce souvenir comme si elle avait vu passer Fausto la veille. Ses paupières rougissaient, ses cernes se creusaient, des larmes revenaient du fond des temps, car pour elle, cette souffrance du champion était restée là, dans son cœur, inoubliable, indépassable. Fausto était un peu des nôtres, une ombre tutélaire de l'Italie d'où venait notre patronyme, un frère, un ange de la nuit. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Valentin Dedon et je suis ravi de vous retrouver sur Radio G pour un nouvel épisode d'Albertine, l'émission qui se souvient de nos grands-mères. De lundi par mois à 13h, en semaine impair, ou quand vous le voulez sur radio-g.fr, on se souvient de nos grands-mères avec une ou un invité. Fausto Coppi dans le col d'Aubisque, un après-midi de juillet, dans le regard ébloui de la grand-mère d'Éric Fotorino, qui nous raconte à merveille ce souvenir de famille dans un livre paru chez Stock en 2019, intitulé « Mes maillots jaunes » et dont je viens de lire un extrait pour débuter cet épisode. Voir avancer nos champions sur leur vélo ou sur un bateau, dans des luttes ordinaires ou en plein état de grâce, de près ou de très loin, laissant-nous des traces, une émotion, cet éclat singulier qui les placerait presque dans une catégorie à part d'êtres humains. Lui est proche de moi, face à moi, aujourd'hui dans le studio de Radio G, et j'en suis à la fois impressionné et ravi, Fabrice Amedeo, navigateur, qui a bouclé le dernier Vendée Globe le 4 mars 2025 sur son bateau après une épopée intense et intime de 114 jours. Bienvenue Fabrice et merci d'avoir accepté l'invitation d'Albertine.
Bonjour Valentin et bonjour à tous.
Alors Fabrice, première question rituelle de cette émission, c'était quoi le prénom de tes grands-mères ?
Alors mes grands-mères s'appelaient donc côté maternel Edith et côté paternel Jacqueline.
Alors Edith et Jacqueline, toi comment tu les appelais ? C'était quoi leur surnom ?
Alors Edith, je l'appelais Mima, c'est le verlan de mamie, mais je suis pas sûr que ce soit pour ça qu'on l'appelait Mima, mais en tout cas je dis nous parce que tous les cousins, tous les petits-enfants, on l'appelait Mima. Et alors Jacqueline, c'est un petit peu plus technique. Donc Jacqueline, c'était Jacqueline Amedeo, hein, c'est ma grand-mère paternelle. Son nom de jeune fille, c'était Teul. Et donc, elle se faisait appeler Kateul, le K de Jacqueline. Alors, c'est un Q, normalement, Jacqueline, mais là, c'était K, Kateul, c'était son surnom. Je sais pas exactement d'où ça venait. Je sais que quand elle était jeune, les gens l'appelaient Kiki, parce que c'était Jacqueline. Bon, après, les surnoms, c'est toujours un peu ridicule. Hein. Bon, voilà, c'était Kiki dans sa bande de potes. Et donc, Kiki Teul, et Kiki Teul est devenu Kateul. Et donc, j'ai toujours parlé de Kateul.
Et vous aussi, les petits-enfants, c'était, vous l'appeliez comme ça. Il n'y avait pas un surnom propre à la grand-mère.
Bah, c'est un surnom. Kateul, d'une certaine manière. On l'appelait Kateul. Tout le monde l'appelait Kateul. Mon grand-père, c'était Jean. Il n'avait pas de surnom. Donc, c'était Jean et Kateul. Et ma grand-mère, c'était Mima. Et en fait, moi, je suis né en 1978. Ça fait un peu au siècle dernier. Ça fait ouh. Et mon grand-père maternel est décédé en 1975. Donc, en fait, je ne l'ai jamais connu. Donc, j'avais, en fait, j'avais deux grand-mères, un grand-père. Donc, j'avais Jean et Kateul d'un côté et Mima de l'autre.
Alors Mima, Edith, est-ce que tu peux nous dire un peu à quoi elle ressemblait, si tu devais un peu nous la redessiner ?
Donc Mima, elle était Edith, on va l'appeler Edith parce que là maintenant à mon âge j'ai du mal à l'appeler par son surnom quand même. Elle était née en 1915, elle est décédée en 2001. Ça a été en fait ma première expérience de la mort. J'ai eu beaucoup de chance, hein, donc j'avais 23 ans, c'est la première fois que je perdais quelqu'un et donc que j'allais à un enterrement. Donc ça a été voilà, ça a été triste évidemment de perdre cette grand-mère. Je garde beaucoup de tendresse évidemment dans mes souvenirs vis-à-vis de ma grand-mère, mais je vais dire des choses qui peuvent sembler dures alors qu'il n'y a aucune dureté en moi, mais c'est vrai que je garde le souvenir d'une personne qui ne faisait pas grand-chose. Les récits que j'avais eus de mon père, donc de son gendre, c'était qu'il l'avait toujours connue à la maison, faisant de la couture et cousant des rideaux et se baladant quand il y avait besoin de se balader pour aller faire des courses. Mais donc vraiment un truc un peu old school quand même. Une femme à la maison qui s'occupe des rideaux, quoi. Et ensuite, ben, quand j'étais enfant et que du coup j'étais là, moi je garde le souvenir d'une grand-mère très vieille avant l'âge. À 70 ans, elle avait une canne. Aujourd'hui, il y a des gens de 70 ans qui font peut-être pas des treks, mais qui font des randonnées. On fait plein de choses à 70 ans aujourd'hui. À 70 ans, elle avait déjà une canne. À 70 ans, c'était déjà une très vieille dame. Et elle faisait du tricot au coin du feu et elle lisait. Voilà, ça c'est les souvenirs que j'ai de ma grand-mère. Elle est décédée, elle avait à peu près 85 ans. Donc moi, j'ai des souvenirs entre de l'âge de 70 ans et 85 ans. Et je l'ai toujours connue avec une canne, très vieille dame, avec l'espèce de... Des gens ont sans doute connu ça chez les anciens, l'espèce de petit sac poubelle qu'on mettait sur la tête pour pas toucher à la mise en plis sous la pluie. Et le matin, quand elle se réveillait, elle avait un espèce de grillage sur les cheveux pour
les traces,
pour pas se décoiffer, quoi. Donc vraiment vraiment old school, quoi, la grand-mère, voilà.
Et dans la bouche de quelqu'un qui fait le tour du monde en bateau, on peut entendre que sa vie paraît un petit peu calme, lente.
Sa vie était calme et lente. Après, il n'y a aucun jugement de valeur. Hein. Je garde de très beaux souvenirs de ma grand-mère, beaucoup d'affection. Il y avait beaucoup d'amour chez elle. Il y avait beaucoup, beaucoup d'amour et beaucoup de douceur. On va parler de ma grand-mère paternelle après, qui était quelqu'un de très dur, une femme à poigne. Ma grand-mère maternelle, il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. C'était une belle personne. Mais c'est vrai qu'elle faisait pas grand-chose dans sa vie, à part faire sa petite promenade avec sa canne, aller à la messe le dimanche et voilà, deux, trois choses comme ça.
Tu as des souvenirs avec elle, enfant, adolescent ?
Du coup, j'ai pas énormément de souvenirs. J'ai des souvenirs d'ado, c'est pas gentil, avec mon meilleur ami qui s'appelait Jean-Christophe. Quand il venait à la maison, elle était, comme je l'ai dit, un peu vieille avant l'âge, et donc elle a été appareillée très tôt. Et donc, on allait la voir et on faisait semblant de parler sans émettre de son. Et donc, elle disait « Hein, quoi ?» Et donc là, on continuait. Et donc, elle augmentait le son de son appareil auditif. Et là, on faisait « Waouh !» Et, ça sifflait dans ses oreilles. Ça, j'ai des souvenirs comme ça, c'est vraiment pas gentil. Hein. Mais bon, c'était affectueux, j'aimais fort ma grand-mère. Donc j'ai plus des souvenirs comme ça que des vrais partages. Après, elle m'a bien sûr parlé beaucoup de son mari défunt. Donc ça a bercé aussi mon enfance, les récits de... Puis il y avait tout un imaginaire qui s'est... On va peut-être en parler, mais il y a tout un imaginaire qui s'est construit autour de mon grand-père maternel et de mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père était préfet sous Vichy. Donc il y a quand même un risque non nul qu'il ait été collabo. Et en fait,
donc le grand-père d'Edith.
Le père d'Edith.
Ouais.
Non, le mari. Mon grand-père.
Ah, je pensais que c'était l'arrière-grand-père.
Le mari d'Edith, qui était mon grand-père, et ensuite il y a mon arrière-grand-père, donc le beau-père d'Edith, qui a fait la Première Guerre mondiale. Mais donc son mari,
d'accord,
était préfet sous Vichy. Dans le centre de la France, dans le département de la Loire, et du coup, bon, j'ai jamais fait d'enquête. L'ancien journaliste que je suis, pourtant, à un moment a aimé le faire, mais bon, là, quelquefois la vie, ça passe vite et on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on fait. Mais il y a quand même une probabilité non nulle pour qu'il ait été collabo. Et du coup, visiblement, sur la fin de la guerre, il a quand même fait un petit passage par la résistance, et donc il y a eu toute une reconstruction finalement a posteriori, on en a fait un héros de la résistance.
Il y a eu un nouveau récit
ouais, et donc,
qui occultait certaines choses.
Elle m'a beaucoup parlé de son mari qui était un héros de la résistance, mais je suis pas sûr que ce soit aussi simple que ça. Et bah du coup, si on continue sur un peu la mythologie familiale, mon arrière-grand-père, donc le beau-père d'Edith, le papa de son mari, était donc dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Il a été gazé pendant la Première Guerre mondiale à Verdun. Et du coup, il a été ensuite hospitalisé et donc réformé. Et c'est vrai qu'on en a fait un héros de la Première Guerre mondiale. Et mon père, qui a toujours été un peu sarcastique avec sa belle famille, m'a toujours dit, quand j'étais ado, quand on est un peu en rébellion contre ses ancêtres, m'a toujours dit, les héros de la Première Guerre mondiale, ils n'étaient pas gazés au fond des tranchées, ils étaient baïonnettes en canon en dehors des tranchées. Donc il y a là aussi un petit doute qui s'immisce. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que, et je te remercie pour cette invitation aujourd'hui, parce que finalement venir ici, ça invite à réfléchir un petit peu avant de venir, c'est la moindre des choses, et à se replonger un peu dans des souvenirs et aussi dans des archives, dans des choses qui traînent au fond des coffres. Et j'ai une petite malle dans mon bureau chez moi, et avant de venir, j'ai réouvert le carnet de mon arrière-grand-père que j'ai récupéré au décès de ma grand-mère.
Un trésor.
Bon, alors il y a pas de quoi éditer un livre, mais il y a quand même son journal de bord sur quelques pages et beaucoup de photos qui sont aujourd'hui vraiment vieillies, mais
donc pendant cette période de la Première Guerre.
Ouais, tout à fait. Et donc j'ai retrouvé un de ces passages. C'est pas incroyable, mais ça se lit, hein, ça fait quelques lignes. Donc on est le 4 mars 1915, pendant la bataille de Verdun, et donc mon arrière-grand-père, écrit: dimanche de Pâques par un sale temps, de la pluie, de la boue. Je ne sais combien de mes pauvres camarades ne pourront faire leur Pâques. Les dernières attaques nous ont coûté cher. Plus d'une centaine dorment de leur dernier sommeil, mais nous avons pris plusieurs tranchées. Et il termine en disant: les cadavres des Boches jonchent le terrain. Ils ont eu des pertes énormes. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel.
Ouais, on est dans les traces de cette réalité atroce.
Mais c'est toujours touchant de se replonger dans ces racines familiales et de retrouver ce genre de texte avec des photos, du coup.
Donc, il y a ces traces-là, mais ces personnages un peu héroïsés dans l'histoire familiale. Donc, Edith, elle en parlait beaucoup, elle partageait aussi autour de ça.
Ouais, il y avait toute une mythologie de l'arrière-grand-père héros de la Première Guerre mondiale et du grand-père héros de la Résistance. Et c'est vrai que la réalité n'était peut-être pas tout à fait ça, mais finalement, bon, l'histoire, quand elle n'est pas faite par les historiens, elle n'est pas censée être objective, c'est juste une transmission. Et donc, moi, j'ai grandi, finalement... dans la lumière de deux illustres ancêtres, alors qu'il y avait peut-être une part d'ombre.
Et le lien à la voile, il est né de l'autre côté de l'histoire familiale, vers Jacqueline.
Exactement. Côté Edith, il n'y a absolument aucun lien avec la voile. Elle a toujours vécu à Paris. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle était à Paris, dans le 17e arrondissement, et ensuite, elle avait emménagé, quand les enfants sont partis, avec mon grand-père. Ils avaient un magnifique appartement face à la Tour Eiffel. Et face au Trocadéro, donc j'ai des souvenirs d'enfance quand j'allais chez elle, je voyais la Tour Eiffel, on était juste au-dessus du cimetière de Passy, et donc j'avais une vue sur le Trocadéro et la Tour Eiffel, c'était incroyable. Et sinon, il y avait une maison de vacances dans le département de la Loire, près d'une petite ville qui s'appelle Charlieu, ou près de Roanne, c'est plus connu. Donc voilà, c'était vraiment la nature. Et donc, il n'y a aucun lien avec la mer. Par contre, côté paternel, avec Jacqueline, là, il y a des choses à raconter.
Allons-y. Donc, et qui était Jacqueline déjà? À quoi elle ressemblait? On aime bien essayer de s'inventer une petite photo, de s'imaginer un peu son allure,
Jacqueline,
son visage.
Elle a toujours eu les cheveux longs, même à la fin de sa vie. Donc du coup, elle a toujours eu un chignon. Donc c'était une femme avec un chignon. Elle a toujours eu les cheveux blancs. Elle s'est jamais teint les cheveux. Enfin, blanc gris quoi, mais voilà, elle s'est jamais teint les cheveux. Toujours très ridée parce qu'elle a toujours aimé le soleil. Elle a toujours aimé le tabac. Elle fumait. Je dirais pas qu'elle, alors elle était pas du tout alcoolique, mais je pense qu'elle aimait bien picoler un peu quand même. Donc c'était une femme marquée par la vie. Elle, mais pas au sens péjoratif du terme. Elle avait les traits de quelqu'un qui vit bien, qui aime la vie, qui aime le soleil et qui profite. Elle était vraiment méridionale.
Il y avait une beauté à ça.
Exactement, il y a une beauté à ça. C'est une femme qui avait beaucoup d'humour, qui rigolait beaucoup, qui était espiègle, qui cherchait tout le temps, la complicité. Quand j'étais ado, je faisais des conneries. Elle rigolait beaucoup de mes bêtises. Par contre, c'était une femme qui avait un très très dur caractère, qui avait une forme de dureté, qui était capable d'avoir ces têtes à claques et d'être très dure avec eux. J'ai des cousins qui ont un peu morflé, j'ai des tantes, donc des pièces rapportées, qui ont aussi un peu morflé. Donc c'était quelqu'un qui était capable d'être très dur, voire épouvantablement dur. Mais elle a été marquée par la vie, Jacqueline. Elle a perdu des frères. Elle était issue d'une famille de 6 enfants. Elle a perdu un frère très tôt d'une tuberculose de mémoire et un autre frère relativement tôt aussi. Elle était la petite dernière de cette famille de 6 enfants. Et ensuite, quand elle a été mère, elle a eu 7 enfants. Mon père, c'est le numéro 4 dans l'ordre. Et elle a perdu 2 de ses enfants sur les 7. Alors, pas forcément dans les premières années de la vie, mais elle a perdu un premier enfant vers l'âge de 18-20 ans qui s'est suicidé. Et il y a eu tout un tabou dans la famille. Pendant des années, il a été dit que c'était un accident de voiture. Parce que il s'est suicidé, personne ne savait pourquoi, sauf mon grand-père. Et donc il y avait un vrai secret lourd dans la famille, avec le mystère de, alors il s'appelait Marco, donc il y avait le mystère de la mort de Marco. Et mon grand-père, qui était quelqu'un de très taciturne et de secret, qui gardait ce secret en lui, et on sentait cette douleur, J'ai fini par comprendre des années après, je pourrais pas raconter exactement ce qui s'est passé, mais voilà, j'ai fini par comprendre après ce qui s'était passé. Et donc voilà, il y avait ce secret qui était très lourd à porter dans la famille. Et donc c'était une vraie souffrance pour ma grand-mère, évidemment.
Oui, c'est une des duretés qui est à l'intérieur de Jacqueline.
Ouais, exactement. Et son deuxième enfant qui est mort très jeune, s'appelait Philippe, il est mort à la quarantaine à peu près. Philippe, l'année de sa terminale, donc il devait avoir 17 ans. Là, on est en plein un an près, mais c'est mai 68, c'est Woodstock, c'est tout ça. Et en fait, Philippe, il prend son sac à dos l'année de sa terminale, alors qu'il était premier de classe et que tout allait bien dans sa vie. Il prend son sac à dos, il va à pied à Katmandou et il devient toxicomane. Deux ans plus tard, il appelle mon grand-père d'Arabie Saoudite en lui disant « Envoie-moi de l'argent pour que je rentre ». Donc mon grand-père envoie de l'argent et puis en fait il a pris ça pour continuer à se droguer. Donc mon grand-père a pris un aller-retour plus un retour simple. Il est allé le chercher en Arabie Saoudite. Il était en train de crever dans un caniveau. Il l'a ramené en France. Donc là il devait avoir 22 ans. Hein. Et ensuite pendant 20 ans, il est allé de cure de désintoxication en cure de désintoxication. Donc moi je l'ai connu bien sûr. Moi, j'avais beaucoup d'attachement pour lui. J'avais l'impression d'être un peu le seul à pouvoir l'approcher. J'ai fait des études de philo, tout ça. Il lisait, donc on avait ce partage-là. En plus, bon, quand j'étais étudiant, je me suis laissé pousser les cheveux, je fumais un peu d'herbe. Du coup, on avait cette complicité un peu, on fumait des joints. Et du coup, j'ai été très triste de sa disparition. Mais ça, à la limite, c'est une parenthèse. Mais tout ça pour dire que Jacqueline, elle a perdu un deuxième enfant. Il y avait aussi, je pense, cette culpabilité de perdre l'un qui se suicide et l'autre de la drogue, finalement, de la toxicomanie, de se dire qu'est-ce que j'ai raté, quoi. Et donc, voilà, tout ça pour dire que Jacqueline a été marquée par la vie. Et du coup, elle pouvait aussi avoir ses zones d'ombre. Je pensais aussi à autre chose. Elle a son beau-frère, qui a eu aussi une place très importante. Sa grande sœur, sa très grande sœur, parce qu'il y avait beaucoup d'écart entre elle était la petite dernière, et sa très grande sœur, qui s'appelait Susan, a épousé quelqu'un qui s'appelait Jean. Et ce monsieur s'appelait Jean Dupuis. Et Jean Dupuis, en fait, il était assez gradé dans l'armée au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et il est devenu ce qu'on appelle un vichisto-résistant. Qu'est-ce que c'est qu'un vichisto-résistant ? C'est quelqu'un qui était à Vichy, mais résistant de l'intérieur. Et donc, il a été secrétaire d'État au transport sous Vichy, au début de la Deuxième Guerre mondiale. Et pendant toute une période, en fait, il a fait passer par les trains qui passaient de la zone libre, de la zone occupée à la zone libre, du matériel, pour évacuer l'armement militaire français vers la zone libre. Il a fini par se faire dénoncer. Alors, il y a un mythe. Non, je pense pas que ce soit un mythe. Il y a un secret qui a circulé dans la famille, c'est que la personne qui l'a dénoncé a été ensuite un dignitaire de la Ve République. J'ai jamais réussi à savoir qui c'est. Et malheureusement, je me suis dit qu'un jour j'allais faire l'enquête et écrire le livre, mais tous les gens qui étaient dépositaires du secret sont aujourd'hui décédés. C'est comme ça, on peut pas tout faire dans la vie.
Un secret qui s'est éteint.
Ouais, c'est un secret qui s'est éteint. J'ai choisi de faire le Vendée Globe. J'ai pas choisi d'être historien, ou de continuer un métier de journaliste d'investigation. Donc on peut pas tout faire dans la vie. Donc il y a secret qui s'est éteint. Mais donc Jean Dupuis a été dénoncé. Il a été ensuite enfermé à la prison de Fresnes. Il était voisin de cellule de Jean Moulin. Donc il a quand même eu un destin, quoi. Ensuite, il a été évacué vers un camp de concentration, un camp de la mort, en août 44. C'est l'avant-dernier qu'on voit vers les camps de la mort. En fait, à l'approche des Alliés, les Allemands ont vidé les geôles parisiennes de tout ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les VIP. Donc prisonniers américains, diplomates, etc., résistants, gradés. Et donc il est dans l'avant-dernier convoi de la mort. J'ai retrouvé beaucoup d'informations sur les gens qui avaient... Alors, je suis pas venu avec des notes parce que là, on pourrait y passer la journée, mais il y avait beaucoup de gens qui ont eu des destins incroyables. Je pense qu'il y a un vrai livre à écrire autour de ce Jean Dupuis. Donc il était sur l'avant-dernier convoi, lui qui allait... Le dernier convoi de la Deuxième Guerre mondiale allait à Auschwitz, l'avant-dernier allait à Buchenwald. Donc il est arrivé à Buchenwald, hein, et il était dans un camp de travail, hein, du coup, et il est mort en janvier 45. En fait, il était gaulliste, lui, et il s'est retrouvé dans un baraquement avec des communistes. Et les communistes, à l'époque, n'aimaient pas les gaullistes, et ils l'ont laissé crever, pardonne-moi l'expression, ils l'ont laissé crever. Et du coup, il est mort de fatigue, d'épuisement, et je crois d'une pneumonie, début janvier 1945. Et j'ai fait pas mal de recherches sur... j'ai un dossier à la maison, un gros dossier autour de ce Jean Dupuis. Et j'exclus pas un jour d'écrire un livre parce que je trouve que ça se raconte son histoire.
Ah, c'est une figure qui a attisé ta curiosité,
ouais,
et puis une vie incroyable.
Il y a un vrai destin entre ce, évidemment moi ça me touche parce que c'était le beau-frère de ma grand-mère, donc même si c'est pas un lien de sang, il y a quand même quelque chose. On est toujours fiers de, puis on s'invente toujours des héros dans sa famille. Même, donc là, il y en a un, même si c'est pas un lien de sang, il y a un lien. Et je suis un passionné d'histoire et je pense que, en l'occurrence, objectivement, il y a quelque chose à raconter autour de ce destin incroyable qu'il a pu avoir parce qu'il a croisé des gens, soit que ce soit dans le convoi VIP vers Buchenwald, être voisin de cellule de Jean Moulin, se retrouver vichisto résistant, il a croisé obligatoirement des gens, pour le coup, qui ont marqué l'histoire.
Ouais, des membres de la famille qui deviennent des personnages de la grande histoire. Et pour revenir à ton histoire un peu plus personnelle, intime, on parlait de ce lien à la voile dans l'espace grand maternel avec la grand-mère, le grand-père, du côté paternel. Comment c'est venu concrètement là la présence de la mère, de la voile, du bateau?
Eh ben écoute, mon grand-père, donc Jean, le mari de Cateul, hein, mon grand-père paternel, a été chasseur alpin pendant la Deuxième Guerre mondiale, était passionné de montagne. Il a rencontré ma grand-mère en vacances à Chamonix. Donc j'ai retrouvé... En fait, c'est un magnifique cadeau que tu m'as fait en m'invitant dans ton émission, parce que du coup, j'ai retrouvé ce texte de mon arrière-grand-père, mais j'ai aussi retrouvé un texte que mes grands-parents maternels ont écrit. Donc c'est gros, tu vois, ça se présente vraiment comme un très grand cahier pour leurs 50 ans de mariage. Donc on est en 1992, parce qu'ils se sont mariés en 42. Pour leurs 50 ans de mariage, ils ont écrit, ils ont fait tout un album photo, et ils ont tous les deux écrit un long texte, une sorte un peu de testament spirituel, hein, d'une certaine manière, où ils racontent leur vie, leur rencontre, etc. Je me suis replongé dedans, parce que, en fait, je me suis rendu compte que je l'avais eu, j'avais 14 ans, je l'avais un peu lu, mais pas complètement, parce qu'à 14 ans, on se projette pas dans... Et puis, le réouvrir quasiment 30 ans plus tard, c'est incroyable. Plus que 30 ans plus tard, parce que j'ai 47, enfin beaucoup d'années plus tard, c'est absolument incroyable. Donc du coup, ça m'a permis de reconstituer un petit peu leur vie. Donc ils se sont, et donc j'ai lu pas plus tard que tout à l'heure qu'il y a eu un coup de foudre dans la piscine. Le frère de Jacqueline a envoyé le ballon il s'appelait Jeannot, à Jean, et Jean a été le coup de foudre, enfin en tout cas le futur mari de Jacqueline,
la
ma grand-mère.
D'un amour.
Ouais. Donc ils ont fait beaucoup de montagnes ensemble. Je pourrais peut-être lire un petit texte. Ah, peut-être on peut commencer par une petite touche d'humour.
Allons-y, on t'écoute.
En fait, ils se sont mariés en 42 à Marseille, donc on est à cette époque en zone libre. Il y avait beaucoup de gens du coup qui venaient à Marseille pour ensuite essayer de passer de l'autre côté de la Méditerranée. Il y avait des réfugiés, c'était un peu le bazar. Et donc ils se sont mariés dans un contexte politique très compliqué, et aussi voilà, logistiquement c'était pas simple. Et donc elle écrit: le soir de notre mariage, nous devions passer la nuit à Marseille. Marseille était bourrée de réfugiés et nous n'arrivions pas à trouver une chambre d'hôtel. Un hôtelier compatissant nous indiqua une maison de passe, c'est entre guillemets, qui venait d'ouvrir ses portes et qui pourrait nous accueillir. Et oui, mes enfants, votre grand-père et votre grand-mère ont consommé leur union dans un bordel. Je trouvais ça très bon. Du coup, mariage à Marseille, ensuite vacances à Chamonix régulièrement, montagne, Deuxième Guerre mondiale, mon grand-père est chasseur alpin, séparé de ma grand-mère. Et après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, il a un accident de montagne et il se dit: la montagne, c'est dangereux. Je vais plutôt me tourner vers la voile. Ils ont commencé à naviguer sur un lac, le lac de Parloux, dans le village de Salcuran, dans l'Aveyron, près de Rodez. Et donc moi j'ai des souvenirs de naviguer, j'ai 3 ans, avec mon grand-père et mon père, sur une caravelle. Donc pour les connaisseurs, c'est un bateau en bois des années 60. Et alors on n'est pas dans les années 60, hein, je suis pas né dans les années 60, mais c'est un bateau qui a été construit dans les années 60. Et donc ça part de là, ça part de Salcuran, le lac de Parloux dans l'Aveyron. Ensuite mon grand-père a connu Éric Tabarly et il a co-créé avec lui l'école des Glénans, qui est très connue. À l'époque il était ingénieur et il a fait tout le système, enfin toute la rénovation de Fort Cigogne, qui est une île sur l'archipel des Glénans. Mon père, ado, etc., est devenu moniteur au Glénans. Et donc voilà, c'est comme ça que c'est venu. Mon père a acheté son premier bateau, j'avais 3 ans. Et donc on habitait Segré, pas loin d'Angers en fait, du tout. J'ai beaucoup de souvenirs à Angers. Et donc tous les week-ends, toutes les vacances, on partait pas en vacances très loin. En fait, on allait en Bête-Quiberon, en Bretagne, là où j'habite aujourd'hui. La boucle est bouclée. Et on faisait de la voile en Bête-Quiberon.
Et donc beaucoup de souvenirs de voile avec le grand-père, avec le papa.
J'ai des souvenirs de voile avec mon grand-père sur le lac de Parloux. Quelques souvenirs en mer, parce qu'il y a eu une époque où il venait un petit peu naviguer avec nous. Après, c'était voilà, ça a été un vieux monsieur, il venait plus naviguer forcément avec nous. Et après, en l'occurrence, j'ai énormément de souvenirs de navigation avec mon père, qui m'a transmis sa passion. Et jusqu'à l'âge de 22-23 ans, j'ai quasiment fait la totalité de mes courses, de mes grandes navigations avec lui.
Et Fabrice, il y a une question qui me brûle un peu les lèvres depuis tout à l'heure. On traverse un peu beaucoup de personnes de la famille qui ont retenu ton attention, qui t'ont captivé, que tu as aimé, qui t'ont aimé. quand tu es dans des moments si particuliers de tour du monde, en solitaire sur ton bateau, est-ce qu'il t'accompagne? Comment il t'accompagne? Est-ce qu'il y a une présence?
Mes grands-parents, pourtant je les ai tous aimés fort, hein, évidemment, ne m'ont pas spécialement accompagné pendant mes tours du monde. Je me rappelle quand même que quand je passe le Cap Horn, mon premier Cap Horn en 2016, mon premier Vendée Globe, je fais une vidéo. Et quand je fais cette vidéo, que je partage du coup pour partager mon émotion avec la Terre, je suis en larmes, hein, avec une énorme barbe, un bonnet, faut imaginer le truc. Je dis que je pense très fort à mon grand-père Jean qui est dans le ciel et qui doit être fier. Donc je lui, d'une certaine manière, quand même, ce jour-là, je lui ai dédié ce premier Cap Horn. Le deuxième Vendée Globe, malheureusement, j'ai abandonné en Afrique du Sud. Donc je suis pas rentré dans le chemin un peu spirituel des mers du Sud. Les mers du Sud, c'est très particulier quand on fait le tour de l'Antarctique. Et donc là, il se passe vraiment quelque chose dans la tête. Je suis pas rentré là-dedans. Donc voilà, deuxième Vendée Globe, échec. Ça arrive aussi, ça, on apprend beaucoup de ces échecs. Et troisième Vendée Globe, c'était l'année dernière, c'était l'hiver dernier. Le destin a fait que j'ai perdu ma maman il y a 3 ans aujourd'hui, donc c'était 2 ans avant le Vendée. Donc pour le coup, ça a un peu effacé mes grands-parents, même s'ils restent présents évidemment. Mais du coup, sur ce Vendée Globe-là, j'ai plus pensé à ma maman qu'à mes grands-parents. Et elle m'a accompagné pendant une grande partie des mers du Sud. Alors les mers du Sud, il fait souvent très gris, mais il y a aussi parfois des anticyclones. Et donc la nuit, il faut imaginer, il fait très froid, il y a un ciel d'encre. Avec l'air de l'Antarctique, hein, il fait très très froid, le ciel est noir, il y a beaucoup d'étoiles, et j'avais repéré une étoile sur mon tribord, donc qui était dans mon sud, qui brillait fort, et voilà, dans mon imaginaire de marin, c'était ma mère qui veillait sur moi. Et quand j'ai passé le Cap Horn, je lui ai pas dédié mon Cap Horn, mais il s'avère que par un hasard de la vie, j'ai passé mon deuxième Cap Horn le jour de l'anniversaire de sa mort. C'était les 2 ans de sa mort, et j'ai pas pu m'empêcher d'y voir une arithmétique céleste, et de me dire voilà, elle m'a accompagné pendant toutes les mers du Sud. J'arrive en haut de mon Everest le jour de l'anniversaire de sa mort, et maintenant ça va être la remontée de l'Atlantique, elle va pouvoir se reposer un petit peu.
Une arithmétique céleste, on va garder cette expression dans la poche, elle est magnifique. Fabrice, il est déjà l'heure malheureusement de mettre fin à cette conversation grand maternelle et bien plus encore. Merci beaucoup d'avoir rendu visite à Albertine.
Merci Valentin.
Merci à toutes et à tous pour votre écoute. On se retrouve vite pour un prochain épisode d'Albertine et on se quitte avec un texte choisi et lu par notre invité Fabrice Amédéo.
Alors cher Valentin, j'avais un texte de Jacqueline. Qui était pas mal, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois. Je fais le Vendée Globe en 2028, donc si tu m'invites après mon Vendée Globe 2028, on gardera ce texte de Jacqueline pour la prochaine fois. Et du coup, je suis venu avec un texte de Proust, c'est dans le côté de Guermantes, donc c'est dans La recherche du temps perdu. En fait, j'ai aimé ce texte parce qu'il parle de la mort de la grand-mère, et ça m'a touché parce que moi, dans mon rapport à mes grands-parents, je pense qu'il est important de ne pas rater les au revoir. J'ai mes grands-parents qui sont tous morts, et je pense que j'ai pas trop raté les au revoir avec mes grands-parents. Ça a été à chaque fois des moments forts. Et ce texte-là, je trouve, respire la beauté et la paix. Donc je vais le partager. Quand mes lèvres la touchèrent, les mains de ma grand-mère s'agitèrent. Elle fut parcourue tout entière d'un long frisson, soit réflexe, soit que certaines tendresses aient leur hyperesthésie qui reconnaît à travers le voile de l'inconscience ce qu'elles n'ont presque pas besoin de sens pour chérir. Tout d'un coup, ma grand-mère se dressa à demi, fit un effort violent, comme quelqu'un qui défend sa vie. Françoise ne put résister à cette vue et éclata en sanglots. Me rappelant ce que le médecin avait dit, je voulus la faire sortir de la chambre. À ce moment, ma grand-mère ouvrit les yeux. Je me précipitai sur Françoise pour cacher ses pleurs, pendant que mes parents parleraient à la malade. Le bruit de l'oxygène s'était tu. Le médecin s'éloigna du lit. Ma grand-mère était morte. Quelques heures plus tard, Françoise put une dernière fois, et sans les faire souffrir, peigner ses beaux cheveux qui grisonnaient seulement et jusqu'ici avaient semblé être moins âgés qu'elle. Mais maintenant, au contraire, ils étaient seuls à imposer la couronne de la vieillesse sur le visage redevenu jeune, d'où avaient disparu les rides, les contractions, les empattements, les tensions, les fléchissements que depuis tant d'années lui avait ajouté la souffrance. Comme au temps lointain où ses parents lui avaient choisi un époux, elle avait les traits délicatement tracés par la pureté et la soumission, les joues brillantes d'une chaste espérance, d'un rêve de bonheur, même d'une innocente gaieté que les années avaient peu à peu détruit. La vie en se retirant venait d'emporter les désillusions de la vie. Un sourire semblait posé sur les lèvres de ma grand-mère. Sur ce lit funèbre, la mort, comme le sculpteur du Moyen-Âge, l'avait couchée sous l'apparence d'une jeune fille.
rez-de-chaussée. 101.5 FM.
I'm never gonna hold.